L'invité du matin avec Toyota Location. Louez votre Toyota Hilux à partir de 5500 francs par jour seulement.
Et ce matin, nous sommes en compagnie de la présidente du syndicat des sages-femmes de Nouvelle-Calédonie. Bonjour Valérie Lescroire.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous avez lancé un cri d'alarme la semaine dernière pour alerter sur la situation de votre profession. Pour vous, cette profession est carrément en perdition en Nouvelle-Calédonie. Quelle est la situation aujourd'hui ?
Oui, c'est sûr qu'on est dans des conditions de travail qui sont très dégradées. Déjà, suite aux émeutes, on a eu le départ quand même de plusieurs collègues. Donc on a deux cabinets qu'on fermait sur Nouméa, on en a un Grand Nouméa, un en Brousse. Donc c'est vrai que déjà c'est compliqué. Et puis c'est vrai qu'on voit aussi la qualité des soins qui baisse terriblement et c'est vrai que ça nous inquiète.
Vous avez chiffré le nombre de départs, le nombre aussi de pertes liées aux exactions ?
Donc là, 4 départs, sachant qu'on n'est que 30 libérales, c'est quand même déjà pas mal. Et après, on a fait un petit sondage rapidement avec les autres collègues et on a, sur celles qui restent, encore 50% qui se tâtent encore à prendre une décision de départ d'ici 6 mois.
Et même de reconversion ?
Oui, là sur les cabinets qui ont fermé, là il y en a deux qui cherchent à se reconvertir, je pense un peu écœurés par les conditions de travail et qui ne veulent plus travailler dans ce domaine-là. Quoi.
Alors qu'on ne devient pas sage-femme par hasard, je suppose que c'est une vocation, donc
oui,
changer de
sûr.
Métier, changer de vie, ça doit être un choix difficile.
C'est sûr que de toute façon, même les fermetures, ça a été des choix très difficiles, souvent avec des collègues qui culpabilisent beaucoup, mais c'est vrai que vu les conditions d'exercice, à un moment donné, je pense que c'est une décision qui s'impose aussi pour se préserver. Quoi.
Vous parliez de la qualité de soins aujourd'hui, ça représente un danger pour les mamans et leurs futurs bébés ?
Nous, on est vraiment très inquiets. Alors, déjà globalement sur la Calédonie, parce que c'est vrai qu'on voit des retards de vaccination, des retards de consultation, donc ça forcément on sait que ça va avoir un impact sur la santé publique, parce que forcément quand les gens se vaccinent moins, on est en pleine épidémie de coqueluche déjà, donc on sait que ça risque de s'empirer. Mais après il y a certaines zones où c'est pire. On sait que dans le Grand Nord, on a plus de sages-femmes sur Puebo, Wegoa, Yengen, Tuo, donc avec des patientes parfois qui doivent faire 1h30, 2h de route pour aller consulter. De plus en plus d'accouchements, ce qu'on appelle inopinés, donc en gros des accouchements en brousse, comme on a eu le cas là, de cette dame qui a accouché à Poum, je crois. Et puis des bébés qui ne sont pas suivis. Et donc après, quand on a des retards de développement et qu'on s'en rend compte que bien plus tard, c'est vrai que des fois, c'est des enfants qu'on récupère seulement à l'entrée en petite section. On se rend compte qu'il y a des retards de développement et qui sont beaucoup plus difficiles à rattraper. Donc tout ce travail qu'on fait sur les 1000 premiers jours de vie et qui finalement sont en train de partir en fumée.
Aujourd'hui, c'est le Nord qui est le plus touché par cette crise ?
Je pense que c'est le Nord qui est le plus touché, même si nous, moi je travaille sur Nouméa, on constate déjà pas mal de soucis, tous ces retards de prise en charge, on les constate déjà sur Nouméa, aussi à cause de problèmes de prise en charge, parce que les patients du coup retardent leur consultation parce que ça coûte cher ou parce que les inscriptions, que ce soit à l'aide médicale ou à la CAFAD, ne sont pas encore en cours et du coup ils ne peuvent pas aller chercher les vaccins parce qu'ils ne peuvent pas tant qu'ils n'ont pas le 100%. Et du coup, tout ça, ça pénalise la qualité des soins, c'est sûr.
Donc il y a un problème aussi d'attractivité de la profession, c'est ça ? Il n'y a pas assez de sages-femmes aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie ?
Il n'y a pas assez de sages-femmes et c'est surtout, on s'inquiète justement qu'il y en ait d'autres qui partent, parce que pour l'instant, on tient le choc comme on peut. Mais c'est vrai que là, par exemple, moi j'ai ma collègue de Tontouta qui a son appareil d'écho qui vient de tomber en panne. C'est entre 1 et 4 millions pour renouveler l'appareil d'échographie. Avec la baisse d'activité, les aides médicales qui ne payent plus, en gros, elle me dit qu'elle va fermer son cabinet parce que c'est plus intéressant. Elle ne peut pas continuer, en fait, financièrement. Elle ne peut pas assumer avec, en plus, des assurances qui disent que si jamais ça crame, ce ne sera pas pris en charge. J'ai ma collègue de Point-d'Imier qui assure seule, du coup, les urgences des accouchements la nuit et le week-end puisque le CHN de Point-d'Imier est fermé sur ces horaires-là. Donc du coup, elle a pris la liberté de s'équiper elle-même avec du matériel de réanimation bébé si jamais il y a un problème. Mais ça, c'est elle qui paye à ses frais, quoi. Donc toutes ces choses-là, c'est sûr qu'à un moment donné, financièrement, ça devient compliqué à assumer. On sait très bien qu'il y a les charges qui vont augmenter avec l'énergie et tout ça qui est prête à augmenter pour les deux prochaines années. Donc nous, clairement, à un moment donné, soit on choisit de plus s'équiper et de soigner les gens de façon moins qualitative, soit à un moment donné, du coup, on préfère partir pour soigner les gens correctement, mais ailleurs.
Alors, vous aviez déjà tiré la sonnette d'alerte, c'était avant le 13 mai, c'était juste avant, même une semaine avant, vous aviez manifesté devant le gouvernement, puisque la situation était déjà difficile à ce moment-là.
C'est ça, c'était déjà très compliqué. Alors, la situation, elle est compliquée autant dans le secteur hospitalier que dans le secteur libéral. Hein. Après, c'est sûr que ça ne s'est pas amélioré. On a des collègues qui sont restés enfermés parfois pendant 3 jours pendant les émeutes. Ça a été très, très difficile psychologiquement. Malgré tout, on a quand même répondu présent, je pense. Hein. On a fait des astreintes au poste médical avancé à Gaston Bourré. On a fait un réseau de solidarité pour répondre présent aux patientes. Mais c'est sûr que là, on sent qu'il y a le contre-coup quand même, avec du coup cette question qui nous interroge quand même, de se dire, est-ce qu'on continue à travailler dans ces conditions-là, quoi.
Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous demandez aux autorités ?
Bah, on demande une prise de conscience aussi, hein, du fait que si on veut avoir un niveau de santé en Calédonie qui se maintienne, parce que là, nous, on a cette certitude qu'on avance vers une crise sanitaire aussi, hein, qu'il faut aussi montrer qu'ils sont là derrière, entre guillemets, et puis qu'ils vont aussi nous aider à faire notre travail correctement. C'est ça qu'on demande.
Avec une revalorisation aussi des actes ?
Avec une revalorisation pour pouvoir justement s'équiper correctement, avec aussi le passage de textes qui sont en attente depuis des années, par rapport à l'IVG notamment. Donc là, toutes les patientes du Grand Nord, elles ont un accès très très difficile à l'IVG en ce moment. De nouveau, à cause des fermetures de CHN qui sont ouverts maintenant plus qu'en semaine et que la journée. Donc du coup, des fois, on a des patientes qu'on est obligé d'envoyer 2-3 heures à 2-3 heures de route pour faire leur IVG. C'est pas normal, quoi.
Et aujourd'hui, vous êtes entendu ?
Pour l'instant, c'est difficile d'avoir des réunions parce qu'on a un gouvernement qui est très occupé, ce que je comprends. Et du coup, bah, on a la CAFAT qui doit statuer sur nos demandes le 7 novembre, donc on croise les doigts.
C'est un bras de fer avec la CAFAT ?
Un bras de fer, je ne sais pas, on verra en fonction de ce qu'ils vont répondre. Pour l'instant, nous, on a fait nos demandes. C'est vrai que l'attente de la profession, elle est forte, hein, parce qu'on se sentait déjà un peu abandonné avant la crise qui a eu le 13 mai. Donc, je pense que du coup, il faut vraiment qu'ils aient une réponse forte pour montrer qu'ils s'intéressent vraiment à la qualité des soins de la Calédonie et qu'ils sont prêts à faire le nécessaire.
Et est-ce que vous êtes soutenu aussi par le reste du monde médical, par les autres praticiens dans toutes les spécialités ?
Oui, bah, je pense que la situation, elle est globale. Hein. C'est pas que pour les sages-femmes. Nous, en tout cas, le Conseil de l'Ordre est derrière nous. Ça, c'est une certitude, le Conseil de l'Ordre des sages-femmes. Mais on travaille aussi avec la Fédération des professionnels libéraux de santé et on remarque, hein, de toute façon, qu'il y a une préoccupation qui est quand même transversale de tous les professionnels de santé sur la situation sanitaire. Je pense notamment à mes collègues infirmiers aussi, hein, qui sont très peu nombreux et puis qui voient aussi, eux, au quotidien, dans leur tournée à domicile, que la situation se dégrade vraiment.
Est-ce que la réserve sanitaire, par exemple, peut être mobilisée sur la question des sages-femmes ?
Bah, la réserve sanitaire, c'est compliqué parce que là, ils ont voulu la faire venir. Au final, il n'y a qu'une seule personne qui est venue sur les 10 qui étaient prévus. Donc, de nouveau, la question de l'attractivité, elle se pose aussi. Et la réserve sanitaire, ça coûte très cher parce que c'est quand même, ça doit être payé en fait par le Medipôle. C'est pas offert par l'État. Donc, pour nous, c'est pas une solution à long terme parce que c'est souvent des mandats de 3 semaines. Donc, clairement, c'est pas viable. Je pense qu'il faut faire quelque chose ici sur place. Faut pas compter sur la réserve sanitaire.
Et aujourd'hui, donc, il faudrait quoi pour redonner de l'attractivité à la profession ?
Je pense que déjà, si tous les textes de loi à la DAS qui étaient en cours depuis des années pouvaient passer, déjà, ça nous faciliterait bien la vie. Et puis, du coup, après, effectivement, avoir un système, on va dire, de collaboration avec la DAS, avec le ministre de la Santé, pour pouvoir avancer concrètement. C'était lancé un peu l'idée d'une cellule de crise, en quelque sorte, hein, qui puisse avancer rapidement, parce qu'on voit que tout prend du temps, et nous, on est dans l'urgence de la situation maintenant, en fait.
Est-ce qu'on a malheureusement connu des drames liés à ces soins, qui sont aujourd'hui un petit peu plus difficiles qu'avant ? Est-ce que vous avez connaissance de situations qui ont été critiques ou...
Bah, du coup, effectivement, ma collègue dans le Nord, là, elle nous expliquait qu'effectivement, il y avait pas mal donc, d'accouchements... inopiné. On a eu des patientes aussi qui ont été transférées un peu dans l'urgence alors qu'il n'y a plus de SAMU, etc., avec parfois des patientes qui arrivent bien trop tard. Avec, y a déjà eu donc effectivement des décès de bébés qui sont parfois pas forcément mis sur le compte des émeutes, alors qu'on se rend bien compte que l'allongement des délais de transport, etc., par exemple, ça pénalise vraiment les chances, le pronostic pour les patientes. Et puis, effectivement, c'est tous les jours des drames que constatent nos confrères gynécos avec des patientes qui arrivent avec des cancers très, très avancés, de patientes qui n'ont pas osé ou qui n'ont pas pu consulter. Et ça, pour nous, c'est toujours difficile. Mmh.
Et justement, ces conditions peut-être risquent de freiner l'installation en brousse. On sait qu'il y avait la question de la sécurité aussi, qui pendant un moment a rendu l'attractivité en brousse difficile. Aujourd'hui, le fait de travailler dans des conditions et de faire face à ces drames, là aussi, ça peut être un frein pour l'installation de nouvelles sages-femmes.
Bah, c'est sûr que c'est pas facile d'avoir l'impression de travailler en médecine de guerre, entre guillemets. Et de nouveau, bah, si on peut pas s'équiper, on n'est pas payé par les aides médicales, à un moment donné, c'est pas au professionnel de santé d'être créancier des aides médicales parce qu'ils n'ont pas de quoi payer. Nous, on se retrouve un peu pris en étau entre les patients qui n'ont pas forcément les moyens et qu'on veut quand même aider et qu'on a l'obligation, en plus déontologique, de prendre en charge. Et puis après, de l'autre côté, des provinces qui ne peuvent pas forcément nous payer. Donc après, il y a quand même des charges à payer, un loyer.
Et au niveau du syndicat des sages-femmes, aujourd'hui, vous lancez tous ces messages-là, vous publiez un certain nombre de communiqués, mais est-ce qu'il y a des actions de terrain, de prévues pour essayer de réveiller un peu l'opinion publique là-dessus?
Je pense que cette médiatisation a été nécessaire. Pour autant, c'est compliqué d'envisager une grève ou quelque chose comme ça. Pour l'instant, on sait que la population, pour l'instant, on la sent très fragile et on n'a pas envie de pénaliser encore plus la situation. Donc, on continue à travailler de façon solidaire comme on l'a toujours fait. Mais on espère que ce cri d'alarme, il suffira à faire réagir.
Et vous demandez toujours un rendez-vous auprès du gouvernement, quelque chose ?
Bah pour l'instant, on attend surtout les réponses de la CAFAT, et puis je pense qu'on avisera en fonction. On va essayer aussi de relancer la DAS, justement, pour essayer d'avancer, notamment sur l'IVG, mais sur d'autres sujets aussi qui sont en attente.
Donc, réponse de la CAFAT attendue pour cette semaine, c'est ça ?
C'est ça, c'est jeudi 7 novembre, donc croisez les doigts.
Merci beaucoup, en tout cas, Valérie Lescroire, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes présidente du syndicat des sages-femmes de Nouvelle-Calédonie.
Merci à vous.